그런 건가 봐. 저한테 왔으면 그건 또 소위 La semaine dernière, à cette heure-ci, j'étais au Portugal, il faisait 27 degrés. C'était super. même lundi, j'étais toujours au Portugal, il faisait toujours 27 degrés. Puis là, c'est pas le cas. Quelqu'un me demandait l'autre jour, dans une discussion, s'il y avait une homme ou une femme politique bouddhiste, ce sera quoi? Et si vraiment c'était un programme. C'est vraiment le programme de quelqu'un, un candidat bouddhiste. Et j'ai pensé un peu à ça, et c'est difficile à dire parce que je ne pense pas que c'est possible. Parce que dans la politique, il faut prendre les positions. Et dans cette pratique, il s'agit de ne pas prendre position. Ça dépend. Donc, la réponse sera toujours « ça dépend ». Ça dépend de la situation, les gens, le temps, l'espace, les quantités. Ça dépend de tellement de choses que... c'est comme on dit, c'est « dwelling in non-dwelling ». Donc, demeurer dans le non-demeure. On ne peut pas se fixer sur une position parce que ça change. Ou comme quelqu'un, quand j'étais dans mes situations au Portugal, avant la retraite, au restaurant, ou en voiture, etc., j'ai demandé aux gens de parler portugais, de ne pas se soucier du fait que je suis quasi nulle en portugais, mais que j'apprends, j'essaie d'apprendre. Et donc, quand j'essayais de répondre, je comprends assez bien, en fait, si je connais le contexte et si les gens parlent lentement et c'est pas un vocabulaire compliqué. Donc, ça, c'est beaucoup de contraintes, mais si toutes ces conditions sont remplies, je comprends assez bien. Mais pour répondre, pour parler, c'est très difficile parce que j'ai pas de pratique. Donc j'essayais d'expliquer qu'il me manque de la pratique, qu'il me manque de vocabulaire, et je ne sais pas conjuguer les verbes à partir du présent, je ne connais que le présent. Donc ça complique un peu les discussions parce que je ne peux parler que en présent, et avec une poignée de verbes, donc très compliqué. Et donc la personne qui conduisait a dit « Oh, mais c'est intéressant, c'est très zen ». Je ne peux parler que dans le présent. Et c'est vrai. C'est vrai. C'était très marrant, ça. Et c'est un peu comme ça, un personnage politique bouddhiste, ce serait un peu comme ça, d'avoir du mal à projeter dans l'avenir. Ou s'accrocher au passé. Et là, on parlait avant de politique, évidemment, parce que c'est très présent dans la vie pour nous tous, plus ou moins, à différents degrés en ce moment. Et on parlait de ça. Moi, mon feeling avec ça, c'est que ils ont tous ces programmes grandioses, élaborés, etc. Mais en fait, très peu de ça qui va se faire. On a bien vu ça aux États-Unis avec Obama, on avait tous des grands, grands espoirs. Et c'était très compromis ce qu'il pouvait faire. C'est la réalité. C'est la réalité dans la démocratie, c'est ce qui peut se faire. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir les aspirations que tous ces candidats, ces 11 personnages, ils mettent tous les espoirs qu'ils ont. Ils se permettent à rêver dans les trucs les plus extravagants. De le revenu universel à... Moi, j'ai donné l'exemple de Fillon qui propose de couper 500 000 postes de fonctionnaires. Les deux sont très irréalistes. Des choses comme ça. Ou même Madame Le Pen qui va jeter tous les immigrés, qui va faire ceci, cela.
Dès le lendemain,
voilà,
tout ce qu'elle va faire.
C'est ça. Mais bon, Trump, il avait changé le système d'assurance maladie aux États-Unis le premier jour.
Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire que Obama a fait.
Oui, bien que c'était très compromis par rapport à ce qu'il avait proposé et ce qui a été réalisé.
Ah bon?
Était très très compromis, ah bon, parce que les autres sont les bâtons à chaque étape.
Non?
Oui, quelque chose a été fait, oui, mais c'est pas très très, c'est très inégal. Mais quand même. C'est la vie. La vie, c'est compromis. Hein. On ne peut pas tout savoir ce qu'on veut à chaque instant. On essaie d'apprendre ça à nos enfants et c'est pas facile. Parce que nous-mêmes, il y a des moments où on ne croit pas, qu'on veut quand même tout ce qu'on veut. Donc, oui, c'est intéressant de regarder toute cette vie politique à partir de ça.
Ceci dit, ça pourrait être une position
de ne
pas avoir un programme avec des certitudes et des planifications, mais d'avoir une posture qui est justement à chaque situation de prendre une nouvelle décision. Non, il y aurait ça va à l'inverse de.
Mais la position sera quelque chose du genre il faudrait que tout le monde regarde en soi-même pour se désarmer. Le programme de désarmement, ce sera ça. Le programme pouvait être les préceptes qui sont pas des règles. Bon, c'est un formidable rêve, je trouve, d'avoir un. D'œuvrer pour une société éveillée, quand même. Mais ça, c'est compliqué. Sans tomber dans le. Ben, c'est pour ça que le Dalai Lama s'est démissionné de sa poste. Il était le chef d'État du Tibet et du gouvernement en exil, et ça ne collait pas avec sa position. De chef spirituel, entre guillemets. Donc. Et c'est vrai aussi, hein, c'est intéressant aussi ce que Sophie en parlait avant et elle a dit oui, c'est passionnant, c'est une formidable exemple d'une démocratie qui se passe en ce moment, etc. Et moi, j'ai cette impression, pas uniquement, mais que on est très angoissé, inquiet par ce qui va se passer, que on n'apprécie pas vraiment ce qui se passe, qu'il y a quand même une discussion sur les idées, sur les possibilités. Il y a des positions, mais vastes, des positions vastes, des différentes. les gens discutent entre eux. Bon, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout politisés et qui ne réfléchissent pas et qui ne vont pas voter et qui s'en fichent plus ou moins, je pense. En même temps, est-ce qu'on peut... Et j'avais dit à Sophie, oui, après le premier tour, quand c'est un soulagement que le pire a été évité, ou entre guillemets, je ne sais pas, mais quand on regarde en arrière, on va peut-être apprécier, mais on est un peu dans l'angoisse, c'est l'inquiétude, plus ou moins. Je ne peux pas projeter sur tout le monde que tout le monde est inquiet. Mais c'est vrai qu'il y a une énorme incertitude, ça c'est sûr. C'est très incertain. Ce qui est la réalité, à chaque instant, de toute façon. On ne sait jamais ce qui va arriver.
Une chose qui me questionne depuis toujours, mais plus particulièrement, c'est un peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est j'ai regardé chacun son tour, là, les 11, et je les ai trouvés presque tous très humains, enfin tous très humains, et je trouve que je m'intéresse un peu depuis ces derniers temps, je regarde des choses, des reportages, des meetings, des choses comme ça, et je me dis, chacun et chacune est profondément un être humain comme nous. Et pourtant, il y en a qui ont des postures, des positions, qui sont absolument inacceptables pour moi. Mais n'empêche que même ces personnes-là, je les vois rire, je les vois avoir des échanges, je les vois. Et... Voilà, ça me trouble, ça me questionne, ça. J'avais déjà été confrontée il y a fort longtemps, il y a 30 ans, 35 ans, dans un bio que je fréquentais, il y avait une jeune femme avec qui j'étais en sympathie, et puis j'avais appris qu'elle votait Front National déjà à l'époque, enfin qu'elle était, je ne sais pas si ça existait, Front National, et je me suis dit, mais est-ce que je renonce à mon amitié avec elle, alors que je, sans savoir qu'elle était Front National, non, je n'étais pas une amie, mais c'était une camaraderie, on va dire, ou pas, je ne sais plus ce que j'avais fait, mais... 35 ans plus tard, j'ai un peu la même question. Enfin, je n'ai pas le même problème parce que ce n'est pas une situation avec une personne en particulier, mais ça me questionne. Voilà, je pense que ceux qui font les pires choses, pardon, même Bachar al-Assad, qui est l'autrice de la planète actuellement, enfin, le summum de l'horreur, c'est un être humain, c'est un homme. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, justement, dans Zen, par exemple ?
C'est ce que le Dalai Lama a dit, que même Mao, qui était Mao Tse-tung, qui avait envahi le Tibet, qui avait persécuté plein de moines, etc., chassé le Dalai Lama, etc., il avait dit, même Mao Tse-tung a la nature du Bouddha.
Oui, carrément, oui.
Donc, c'est vrai.
Non, c'est encore plus fort, moi je dis c'est un être humain, mais la nature de Bouddha c'est encore plus.
Mais c'est la même idée. Et je crois que les questions étaient que. Je crois qu'il avait même dit. Et il a le potentiel de la réaliser. Chaque être a ce potentiel. Qu'il n'y a pas quelqu'un de mauvais dans ce sens-là. Bon, Bachar al-Assad, c'est difficile quand même. Hein. Mais bon.
Ah oui.
Mais on peut dire la même chose de. Je sais pas. Peut-être il y a des gens en Syrie qui ne trouvent pas que Bachar al-Assad est mauvais, qui trouvent que c'est les rebelles qui sont mauvais, que. Tout dépend de quel point de vue on regarde aussi.
C'est
C'est toujours la difficulté de l'absolu et le relatif, c'est que du coup on a l'impression que tout est relatif et du coup il suffit de... Ça dépend de quelle, de notre position et que du coup de, en fonction de ça ou ça, c'est, ça peut devenir acceptable.
Mais c'est un peu...
Du coup c'est
oui.
Toujours cette ligne de rasoir, cette ligne de rasoir qui est compliquée.
C'est cet exemple qu'on donne qui est formidable d'un triangle que Gampo Roshi utilise beaucoup dans le Big Mind, où tu as il y a la base du triangle, d'un côté c'est l'équivalent du relatif, l'autre base c'est l'absolu, et puis il y a ce qu'on appelle l'apex, qui est ce n'est pas que c'est transcendant, c'est pas que c'est ailleurs. Mais c'est ni l'un ni l'autre, et ce n'est pas les deux. C'est comme tu dis, c'est le fil de rasoir. Ce n'est pas un point fixe. Mais ce n'est pas l'absolu et ce n'est pas le relatif. C'est le fonctionnement des deux ensemble. Quelque chose comme ça. C'est difficile à mettre en mots. Mais c'est assez parlant, cette image du triangle.
Nous sommes composés comme ça.
Oui, bien sûr. On incarne ça, ouais. Tout à fait.
Ou même dans nos extrêmes, enfin, je veux dire, pouvoir avoir de l'amour et de la haine. Ouais, c'est ça. C'est vraiment les deux. On se rend de plus en plus compte de tous les côtés marécageux. Bon. Je pense à la fleur du lotus qui ne pourrait pas être aussi lumineuse si elle n'avait pas le pied dans la boue. Enfin. Ça suffit pas. Mais y a peut-être que ça pourrait m'aider aussi, ça, de savoir qu'il y a... Est-ce qu'on pourrait appliquer ça aussi ? La haine, l'amour et...
Ah, tout à fait. Donc, c'est quoi la apex ? Je sais pas comment on dit ça en français. Apex.
Cime.
Quoi ?
Cime. Pas sur un triangle.
Non, pas trop.
Bah non, c'est peut-être... Le mot apex, ça existe en anglais ?
Apex, oui.
Oui. Et ça veut dire quoi ?
Ça veut dire ça, cime. Mais là, dans ce cas-là, je pense que... Enfin, bon, peu importe.
La
pointe,
c'est intéressant.
Oui, le triangle, oui, peut-être, je sais pas.
Ce que tu disais, c'est ni l'un ni l'autre.
Quand Gampo parlait de ça, il parlait de soi-même. Hein.
Ouais.
C'était pas quelque chose d'abstrait. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il donnait des trucs. Oui. C'était des trucs très concrets.
Oui.
Oui, ça pouvait être amour et d'autres choses. Hein. C'était très concret.
Tu disais tout à l'heure, c'est ni l'un ni l'autre, ni les deux réels.
Il y a ça, et il y a ça, et puis il y a ça. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut expérimenter l'apex ? C'est quand on n'a plus. Bon, pour simplifier beaucoup, c'est qu'il n'y a pas un attachement à moi. Il n'y a pas. C'est demeurer dans le non-demeure. L'apex, c'est le non-demeure. C'est pas fixé dans l'un ou l'autre. C'est comme. On a l'exemple des préceptes. Donc. Et c'est la même chose qui s'applique. Il y a le côté littéral. Littéral, on dit en français aussi. Où il faut pas mentir. C'est non. Et il y a un mensonge et il y a vérité. Et un ou pas. Et puis il y a l'aspect un peu et il y a l'autre aspect. Non, je vais changer l'ordre un peu, mais il y a l'autre aspect qui sera opposé où il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de mots, il n'y a personne pour mentir, donc tout va. Rien n'est relatif. C'est le total, tout va. Ou tu ne vas pas. Il n'y a rien ou il y a tout. Donc ça c'est l'absolu. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'interprétation subjective, ou comme passionnée, ou ce sera le apex, ou ça dépend. Il y a des cas où on ment. Et on donne toujours ce même exemple de si on était disons, la France occupée pendant une guerre, et on avait une famille juive cachée dans notre grenier. Le Gestapo frappe à la porte, demande, est-ce que vous avez une famille juive cachée dans votre grenier? Vous dites, vous allez mentir. Bien que, littéralement, il ne faut pas mentir. Mais puisque la situation est autre, où sauver les vies des gens, c'est mentir. Ouais.
Parce qu'il ne faut pas tuer les gens non plus.
Quoi?
Il ne faut pas tuer non
bah
plus.
Oui. on aurait la vie quand même. Ou ce qu'on estime est plutôt dans l'harmonie, pas dans le discord. Discord. Voilà. Donc, dans cette partie compassionnée, il y a les deux positions. Il y a l'absolu où rien n'est fixe, il n'y a rien. Et donc, c'est ça qui permet de pouvoir, entre guillemets, transgresser, parce qu'on n'est pas fixé sur une position. En même temps, il y a un sens de... Il y a un sens de ce que c'est la vie humaine, il y a des choses qu'on considère qui sont meilleures que d'autres, il y a un respect pour l'amour, pour la vie, etc. Donc il y a quand même ça, il y a quelque chose quand même. Et c'est ça qui nous permet d'agir de cette façon-là. C'est en prenant en compte les deux. Bien sûr, dans notre tête, on n'est pas en train de réfléchir à l'être de l'absolu, c'est pas du tout ça. Mais ça, c'est un exemple de ce que c'est la position transcendante, peut-être.
Tu continues que c'est le compassionnel, c'est compassion?
Oui. Parce que quand on dit compassionné, dans le schéma bouddhiste, si on veut rester dans le schéma, la sagesse, c'est voir l'unité de toutes choses. Et donc ce sera l'absolu, ce sera cette base-là. Et la compassion ou l'amour, c'est mettre en action cette sagesse. C'est reconnaître la diversité. Parce que s'il n'y a pas de différence, s'il n'y a rien, l'amour ne peut même pas s'exprimer. La compassion ne peut pas s'exprimer dans l'absolu, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a personne pour exprimer l'amour à quelqu'un d'autre ou pour quelqu'un. Il n'y a rien. Et donc, la seule possibilité d'exprimer l'amour et la compassion, c'est ou mettre en œuvre la sagesse, c'est dans le relatif. C'est ici maintenant avec ce qui est, selon les conditions. C'est pour ça qu'on dit le bodhisattva qui est l'archétype quand même du. Peut-être ça, l'homme politique bouddhiste, c'est le bodhisattva. Le fonctionnaire bouddhiste, c'est le bodhisattva. C'est pour ça que il ou elle ne reste, parce qu'il ne peut pas fonctionner ailleurs. Il est comme tout le monde, et c'est le seul champ de travail, c'est ici, maintenant, dans le relatif. Avec toute la boue, la merde, les joies, les tristesses, tout. C'est ici. Et il ou elle peut agir parce qu'il est animé par cette sagesse. Il met en œuvre la sagesse avec la compassion. La compassion, c'est le fonctionnement de la sagesse.
Il peut être dans la compassion, l'amour, la diversité, hein, en partie grâce à la partie sagesse, où il n'est pas attaché à lui-même, c'est ça, en quelque sorte.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais. Où c'est, on va à Auschwitz et on se rend compte que... au milieu de cette horreur, il y a l'amour. quand même. C'est incompréhensible, mais quand on va là-bas, tu étais là aussi. On vit des choses incroyables au milieu de ce truc terrible.
Ah, quand on y va.
Oui.
D'ailleurs, même quand ça s'est passé.
Oui. Enfin, on n'était pas là, mais on imaginait.
Oui, il y avait
témoignages.
Solidarité.
Oui, c'est ça. Et même, moi-même, j'ai vécu une compassion pour les gardes, pour les bourreaux, etc. Une compassion pour eux, ce qui est inouï quand même. Mais ça, c'est parce que on est. Ça, c'était une réflexion d'une expérience de l'absolu, où il n'y a pas de différence, où on est un avec. C'est là où tu dis, c'est les êtres humains.
Et alors, si on se souvient dans le présent, est-ce que tu peux avoir de la compassion pour Bachar Al-Assad, Marine Le Pen, ou tous ces.
Oui. Oui. En partie parce que mon expérience est que pour agir de telle façon, de faire de telles différences et d'être attaché à un tel point à des positions, il y a une souffrance là. Si moi j'agis comme ça, je ne suis pas tout dans cette position. Hein. Mais quand j'ai les positions très tranchées, quand j'exclus, si je passe à l'acte d'une façon violente, si je n'accepte pas qu'on conteste ce que je dis, etc., je sais que je suis très attachée à quelque chose. Et ça me fait souffrir.
Oui, donc on peut avoir la compassion pour la personne,
oui.
Tout en étant en absolu désaccord avec ses décisions, mm-hmm. ses comportements, mm-hmm. etc.
Tout à fait. Moi, c'est mon expérience. Mm-hmm. Ouais.
Et c'est pour cela que le maître bouddhiste disait que que le Dalai Lama disait que même Mao avait le potentiel
de réaliser.
Parce qu'il faisait la distinction entre la personne et les actes. Ouais.
Et il savait que, enfin, son expérience était qu'il faisait ses actes parce que lui-même il souffrait. Il était aveuglé par quelque chose et ça ne le permettait pas d'agir autrement que ça. Et comme je dis, j'ai lu les témoignages des moines qui étaient tibétains, qui étaient torturés, des choses terribles qu'ils ont vécues dans les prisons chinoises. Et on me demandait après, mais comment vous avez survécu à ça? Et il y en avait un qui a dit, parce que il faisait la pratique de metta, où c'est une pratique de, on appelle ça, de loving kindness meditation. Mm-hmm. Et il disait, je voyais qu'il souffrait plus que moi. Que son executioner, son bourreau, souffrait plus que lui.
C'est la partie où tu dis moi, je m'aime, moi, je t'aime, moi, je vous aime, moi, j'aime le monde, moi, j'aime toute créature vivante.
La pratique de metta. Oui, tu commences avec quelque chose de facile. J'aimerais que ma meilleure copine soit heureuse, qu'elle trouve ce qu'elle veut dans la vie, qu'elle réalise le chemin, etc., etc. Puis tu, bon, peut-être ta mère qui, bon, peut-être pas pour toi, mais pourquoi pas, qu'elle réalise, etc. Puis quelqu'un, peut-être un collègue, on élargit un peu le champ, plus en plus distant, puis on choisit quelqu'un un peu plus difficile. Peut-être le gars qui tient le kiosque qui est pénible un peu le matin quand on achète son journal. Je sais pas, des gens qu'on connaît pas vraiment, mais etc. Et puis on élargit, et puis. Et c'est tout, il y a tout un protocole. de phrases qu'on dit, et on envoie, on prend la souffrance et on envoie l'amour. C'est ça qu'on fait. On prend la souffrance et on envoie l'amour. Donc on inspire la souffrance et on expire l'amour, quelque chose comme ça. Et on va jusqu'à nos pires ennemis. Bachar al-Assad, enfin c'est ça que c'est pas lui. Et on essaie d'appliquer ça à lui. Est-ce qu'on peut faire ça? C'est très puissant. Tu l'as déjà fait?
J'en ai entendu parler.
Tu l'as fait, toi? Oui, c'est très puissant. Hein? Et c'est, tu l'as fait, toi? C'est puissant pour soi-même. On est transformé par ça. Et ça change aussi notre relation avec les autres. Il y a des gens qui, il y a des retraites où on fait ça tout le temps, pendant les retraites.
Justement, je me demandais si on ne pourrait pas faire ça.
Oui, c'est possible, oui, peut-être on devrait le faire. J'ai déjà fait ça avec Roshi, on l'avait fait il y a longtemps. Michel Dubois l'a fait beaucoup. Et ça, c'est possible uniquement parce que on sait ce que c'est qu'il y a l'amour, il y a de la compassion, il y a moi, il y a toi, il y a des gens qu'on aime, il y a des gens qu'on n'aime pas vraiment. Parce qu'on est dans le relatif, on peut faire ça. Mais ce qu'on expérimente, c'est l'absolu, en fait, en faisant ça. On a une expérience de quelque chose d'impersonnel qui est complètement personnel. C'est comme avec les rituels, je dis toujours. C'est que les cérémonies, les rituels, tout ça, dans n'importe quelle tradition, pas uniquement bouddhiste, mais même s'asseoir à table et manger ensemble avec des gens, on se met tous ensemble dans un rituel et on fait tous la même chose. Et ça, ça nous permet d'expérimenter quelque chose d'impersonnel quand on se met ensemble, comme ça. Ça nous libère un peu de notre personnel, de ce que moi je veux faire, ce que moi je veux manger, la vitesse avec laquelle je veux manger. Je prends le repas parce que c'est un truc qu'on connaît tous. Mais par exemple, le ryoki, quand on fait la façon de manger dans les retraites, c'est juste une autre rituel. On a aussi des rituels dans les familles à Noël. On a aussi des rituels à déjeuner, à faire de brunch le dimanche avec des amis. C'est des rituels. Et tous servent la même chose. Bon, il y en a qui sont plus ou moins élaborés pour justement accéder, donner une occasion d'accéder à cette expérience d'impersonnel. Quand on chante. J'ai dit que dans la rue en venant à Montreuil, je suis tombée au plein milieu de l'apéro de Mélenchon, où c'est la France insoumise, ils ont fait des apéros ce soir un peu partout. Et je suis tombée en plein milieu dans un truc à Montreuil. Et il y avait l'orchestre insoumise qui jouait, il y avait le chœur insoumise qui chantait. Et le public qui était là, c'est très sympathique, le public montreuilois, c'est ça, c'est très... Je sais pas comment dire, hein. C'est bobo, mais c'est très bobo, insoumise, quoi. C'est la France insoumise, c'est parfaitement Mélenchon, Montreuil. Mais ce qui était extraordinaire, que toutes ces gens insoumises se mettaient ensemble pour faire cette musique. Ils jouaient Mozart, ils jouaient le chant des partisans, ils jouaient Bella Ciao, non, c'est une belle, Bella Ciao, 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 magnifique. Et ils chantaient, il y avait des gens qui chantaient, ils passaient des paroles, donc les gens pouvaient chanter aussi, et toutes les voix se mettaient à un. Et toutes les musiques, chaque instrument était différent, il y avait des cordes, il y avait des cuivres, il y avait une flûte traversière, un piccolo, mais tous ces instruments, toute cette diversité se mettait en œuvre un orchestre. Et c'est des gens, entre guillemets, insoumises, mais ils mettent ensemble, en commun, l'insoumission. C'est très très beau. J'avais presque envie de rester, mais bon. J'avais d'autres choses à faire. Donc Et donc, il y avait des gens qui passaient, c'était dans un endroit à Montreuil, il y a beaucoup de passages, donc c'est... C'est là où la démocratie, c'est vrai que c'est formidable. D'un autre côté, c'est imparfait parce que ce n'est pas forcément la meilleure solution qui est choisie. C'est le meilleur, entre guillemets, programme ou meilleure personne qui est choisie, c'est le programme ou la personne que la majorité des gens ont choisi. Et c'est pas pareil. La majorité des gens, enfin, selon un comptage, ont choisi Donald Trump. C'est pas la meilleure solution pour l'Amérique, en fait. Je pense que personne, enfin, peut-être il y a des gens qui trouvent que c'est la meilleure solution, mais problématique pour beaucoup de raisons. Bon, même si ça avait été Clinton, c'est pas forcément la meilleure solution. C'est problématique aussi.
Mais démocratie, ça veut pas dire que c'est ce qu'il y a de meilleur.
Exactement. C'est ce que la majorité a choisi.
Oui, c'est ça.
Mais on oublie ça. Que c'est pas forcément ce qui est meilleur.
On oublie pourquoi ?
Bah parce que on pense que parce que la majorité l'a choisi, que c'est le meilleur.
Ah oui.
Mais ça c'est très courant, pas uniquement dans
oui.
Si les livres que la majorité des gens ont acheté, on trouve que c'est le meilleur livre, mais c'est pas vrai. Ou les œuvres d'art. Souvent, les meilleures œuvres d'art, personne n'a entendu parler. Les artistes. Bon, meilleur, relatif. Parce que selon quels critères, c'est meilleur. La démocratie, c'est un formidable compromis qui est peut-être le meilleur compromis qu'on puisse espérer. Parce que, bon, l'idéal de Freud ou d'autres qui était d'avoir des sages qui ne sont pas investis personnellement dans les choix, qui agissent pour le bien de tous. C'est une formidable idéale, mais compliqué à réaliser.
Qui sont comment par rapport à un gouvernement ici, et qui se situe où?
Selon Freud, moi j'ai lu uniquement les parties de cette chose qu'il proposait, mais c'était qu'il y aura des gens qui sont, c'est pas au-delà, c'est pas des dieux, mais qui ne sont pas, qui sont assez évolués pour agir pour le bien-être des autres plutôt pour leur personne. Et c'est un peu ce qu'on espère. Nos politiques, on espère, ça, on souhaite qu'ils soient comme ça, mais ils ne sont pas.
Mais qu'ils ne soient pas dans un. Mais ce que Freud disait, c'est qu'ils ne soient pas dans un poste de pouvoir, c'est ça ?
Oui. C'est un peu comme la posture du psychanalyste, ou le. Encore idéal. Ou la posture du maître zen. C'est qu'on occupe une place qui est vide, mais quelqu'un doit l'occuper. Et on l'occupe. Pas du tout d'une position de moi-je, mais d'une position de qu'est-ce qui est bien pour les autres.
Et Freud proposait que ça soit au niveau d'une nation, c'est ça ?
Oui.
Et que ça soit un concept, et qu'il puisse être près des...
Je ne sais pas les détails de ça. Et je ne sais même pas s'il avait élaboré de cette façon-là.
Ouais.
Mais il voyait des gens du genre Einstein, lui-même, enfin, je ne sais pas lui-même, mais ce genre de figure qui avait une autorité...
Ouais.
Qui, soi-disant, n'était pas, comment on dit ça en français, intéressé par soi-même. Entre guillemets, je dis. Parce que comment on pouvait croire un truc pareil ? Mais c'est une superbe idéale, je trouve. qui est peut-être pas réalisable, mais c'est une bonne idée, qui est une aspiration. Et je trouve qu'on a eu des hommes politiques, peut-être pas beaucoup de femmes politiques, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais qui étaient comme ça.
Mais ça, ça peut être aussi l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Mao ou Bachar al-Assad. Tu peux avoir quelqu'un de complètement désintéressé qui agit en faveur du bien du peuple, tout en faisant des choix qui finalement ne servent pas. Parce que moi, je me disais que on peut pas savoir non plus ce qui est... On a des idées de ce qui pourrait être une bonne chose pour le peuple, mais concrètement, est-ce qu'on sait ce qui servirait
On ne sait pas.
Personnellement, c'est un peu le débat que j'ai par rapport à l'élection en cours en France, c'est que personnellement, c'est que si on misait sur le côté social, on y investissait beaucoup, beaucoup, est-ce que l'économie en souffrirait? Est-ce que ça ferait souffrir encore plus?
C'est bon.
J'ai pas fait d'études dans le domaine, donc je manque cruellement d'informations, mais on peut dire on va donner des repas gratuits à tout le monde, un revenu universel à tout le monde. Enfin, j'en sais rien, toutes sortes d'idées. Et finalement, sur le long terme, est-ce qu'en agissant de façon désintéressée, est-ce qu'on peut même être sûr de,
Non, c'est vrai.
De faire le bon choix?
Absolument.
Deux personnes désintéressées ne seraient même pas d'accord entre elles.
Non, et rien n'est certain, c'est sûr. Et c'est beaucoup plus complexe que juste... Bon, on va donner un revenu universel à tout le monde. C'est très très complexe, cette situation. Parce que tout est interconnecté aussi. Et c'est tout le système qui est en faillite et qu'il faudrait changer. Mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais bon, je pense que qui aurait imaginé il y a 100 ans qu'on allait donner de l'argent aux gens qui sont à la retraite, à tout le monde. On n'aurait jamais imaginé ça. Même on n'aurait jamais imaginé l'assurance maladie il y a 100 ans. Ça n'existait pas. Non. Il y a des choses qui évoluent.
C'est-à-dire que dans son temps, on ne dira pas qui aurait pu imaginer qu'après avoir eu une retraite, il n'y a plus de retraite.
C'est ça. Bah oui, c'est possible.
C'est la question se pose vraiment aux États-Unis.
Bah oui, mais ça se pose ici aussi, parce qu'il y a les candidats qui veulent supprimer beaucoup des trucs de sécurité sociale et qui... Mais aux États-Unis, oui, c'est...
Faire des fers.
C'est fou, non? Alors quoi, c'est pour ça que d'un point de vue bouddhiste, quand tout est interconnecté, on revient toujours à le point central, qui est l'attachement au moi. Et ça nous donne ça. C'est vraiment un formidable exemple de notre monde, toujours, hein, mais en ce moment, un formidable exemple de ce qu'on appelle les trois poisons. Greed, anger and ignorance en plein floraison ce monde. C'est vraiment mais si dingue. Mais nous aussi on est une formidable incarnation de ça, chacun de nous, c'est pas juste, mais c'est à un niveau macro et à un niveau micro là. Donc c'est Et en même temps, il y a des oiseaux qui chantent. Il y a des rayons de soleil qui rentrent dans mon salon et le chat qui vautrait dans le soleil. Il y a des gens qui... Un enfant sur les épaules de son papa qui écoutait la musique, comme ça. Chaque instant est merveilleux aussi. Hein. Voilà, c'est notre monde.
Et si quelqu'un a la position que il y a des gentils et qu'il y a des méchants parmi les êtres humains, et que méchant, il a, voilà, que c'est comme ça, qu'il n'y a pas de nature de Bouddha.
Mais on a cette idée, oui. Tu veux dire que on se fiche dans cette position où il y a des bons et des mauvais, ou...
Oui, enfin, j'ai eu la discussion récemment avec quelqu'un et que j'ai dit, enfin, on parlait entre autres de Hitler et d'autres dictateurs, qui a eu des études faites dessus, qu'ils ont eu une grande souffrance dans leur enfance. Enfin, que ma position, c'était quelqu'un qui n'est pas en souffrance. Enfin, quelqu'un qui fait souffrir un autre est en souffrance. Il ne le ferait pas s'il n'était pas en souffrance. Voilà. Mmh. C'était ma position. Et en face, c'était tu ne veux pas me dire qu'un tel a souffert, ou enfin, c'est quelqu'un de méchant, qui n'a pas de. Du tout.
Qui n'a pas de cœur.
Oui, un truc comme ça.
Qui est né mauvais.
Voilà.
Il sera jamais mauvais, il sera toujours mauvais.
Ouais, un truc comme ça.
Oui. Non, moi je ne suis pas de cette vue non plus.
Ouais.
Mais c'est vrai, hein, que juste là, à la retraite au Portugal, on avait des complications avec la personne qui était en charge d'endroit où on était. Il y avait des choses qui n'étaient pas claires, les gens ne savaient pas qu'il fallait payer pour les couvertures, etc. Bon, c'était compliqué. Et quelqu'un me disait, après, il me dit, « Ah, I could tell I didn't like him from the beginning. » Je ne l'aimais pas depuis le début, quand on échangeait les emails et qu'on changeait tout le temps. Je ne l'aimais pas du tout. Hein. Depuis le début, j'ai dit, il faut faire attention, je ne l'aime pas. Je dis, c'est passer à côté de quoi il s'agit si on se dit, je n'aime pas. Je ne l'aime pas. Parce que, en fait, moi, mon expérience du gars, c'est vrai, ce n'était pas clair, mais il débute dans ce. C'est un peu comme nous ici. Il fait ça depuis septembre seulement. Et il apprend. Et nous, on a beaucoup d'expérience de louer, d'aller dans les centres, etc. Et donc, on a essayé de l'aider. On lui a expliqué que, bon, si vous ne voulez pas que les gens prennent les couvertures, il ne faudrait pas les mettre dans les chambres, en évidence, parce que les gens pensent que s'il y a des couvertures sur le chef, qui peut les prendre. Ce genre de choses. Donc... Et j'essayais de dire à la personne, il ne s'agit pas de « je l'aime ou je ne l'aime pas ». C'est « bon, ok, tu vas être frustré parce qu'il n'était pas clair, mais tu peux comprendre aussi pourquoi il n'était pas clair. » Et avoir un peu de compassion pour ça. Et il avait une attitude un peu autoritaire, un peu fermée, parce qu'il n'avait pas confiance dans ce qu'il faisait. Il avait peur. Et donc il donnait cette impression, donc il souffrait, et donc il se donnait cette impression de c'est moi qui en charge, vous êtes mauvaise, vous avez pris les couvertures et vous ne m'avez pas demandé, donc maintenant il faut payer. Ce genre, un peu cette attitude-là.
Et avoir ce, enfin, si je reviens un peu à avoir tranché là, gentil et pas gentil, si j'ai cette position là, c'est un peu plus facile de me distinguer de voilà, ça je ne suis pas, j'ai pas ça en moi.
Non, absolument, c'est...
lui il est comme ça, mais moi je...
moi je ne suis pas ça.
Je ne suis pas ça.
Exactement. Mais...
c'est le principe aussi de Jésus, que celui qui n'a pas péché jette. Ouais,
oui, c'est ça.
Et je me rappelle une fois que quand on avait parlé des nazis et ce qui s'était passé en Allemagne, que tu m'avais dit que toutes ces gens qui étaient en souffrance, tu sais, qui faisaient les bourreaux dans les camps, etc. Et j'avais vraiment un peu de mal, tu vois, à le croire, enfin à me l'imaginer. Je me questionnais un peu là-dessus. Et après, j'ai trouvé un livre de Alice Miller, je ne sais pas si tu la connaissais, une psychanalyste allemande qui a fait beaucoup de recherches là-dessus sur l'enfance. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est là que j'ai compris le, à l'époque, ce que c'était l'éducation des enfants. Ça faisait ce genre de personnes obéissantes et soumises qui voyaient en Hitler la personne de référence à laquelle se soumettre à nouveau. Et, enfin, voilà, j'ai un peu mieux compris qu'il y avait énormément de monde en souffrance qui était du coup à l'écoute de ça. Et que des gens qui ont grandi, enfin, comme les frères et sœurs Scholl, je sais pas comment dire, qu'ils avaient grandi dans une famille assez heureuse, croyante, et ils trouvaient Hitler ridicule, ces discours qu'il avait, ils n'étaient pas du tout. Ils ne rentraient pas du tout dans ce même.
C'est ça. Et en fait, c'est quand on se sent vulnérable ou pas vu ou pas respecté, évidemment, s'il y a quelqu'un qui vient et qui dit mais vous êtes formidable, vous êtes meilleur que les autres, les autres sont mauvais, ils t'empêchent d'être toi-même, etc. Non, tu as. C'était susceptible et tu n'étais pas bien encadré petit, tu vois, facilement entre la main, ouais. C'est vrai.
Et avec un psychologue que j'ai discuté ça, il a dit ils étaient très intelligents à comment le faire dans comment ils faisaient avec les jeunes. D'abord, ils les mettaient en compétition les uns contre les autres. Et après, ils disaient mais non, vous êtes tous les biens et c'est ça les méchants. Et après, toute la rage allait vers les juifs, vers machin, que enfin sur un niveau psychologique c'est assez bien fait.
Très efficace. Très efficace.
Et la méditation méta, ce serait un peu le contraire.
Oui.
Susciter des sentiments de bienveillance
envers quelqu'un qui souffre.
Ensuite détourner envers quelqu'un qui souffre.
Qui est différente ou qui et vouloir le bien-être de l'autre plutôt que de l'écraser ou l'éliminer . Mais pour faire ça on doit accepter notre propre vulnérabilité, notre propre souffrance, notre propre incertitude.
Et de voir ce qu'on est capable de faire aussi. Ouais. Qui peut-être n'est pas de gazer les enfants ou d'éterner tous les juifs, mais de faire quelque chose qui est monstrueux aussi à notre échelle. Quoi. Enfin, je trouve que c'est une façon extrêmement. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire dans un comportement vis-à-vis de quelqu'un ou de la vie ou Je trouve que ça peut aider à comprendre un peu aimerait que d'autres puissent avoir choses, c'est pas dans les mêmes proportions, d'accord.
Comme la femme que j'ai entendue à Auschwitz qui disait, après quelques jours, elle dit, mais elle était horrifiée, elle a dit, je me rends compte que j'ai fait Auschwitz dans ma tête toute ma vie.
Ouais.
Elle le fait à elle-même, c'est-à-dire qu'elle triait ce qui était bon et ce qui n'était pas bon.
Ouais.
Et elle essayait d'éliminer ce qui n'était pas bon pour elle, selon son critère. Et elle dit, pire que ça, elle a fait ça à ses enfants. Donc elle a trier chez son enfant ce qu'elle voulait qu'il soit et ce qu'il ne voulait pas qu'il soit. Et... Mais c'est très important, ça. Pour le temps, on est...
Moins 20.
On est ?
Il est moins 20.
Okay. Bon. Donc, voilà.